Pour moi, la famille, c'est l'engagement.
C'est un chaos plein d'amour.
C'est complexe.
Pour moi, la famille, j'avais juste un mot à dire, c'est important.
Nous sommes ravis de vous inviter à découvrir le prochain épisode de Pour moi la famille, un balado qui donne la voix aux familles et aux futures familles de la communauté LGBTQ+. Je suis bien content de te retrouver pour ce 7e épisode.
Merci, June, moi aussi.
Yay! Je dois t'avouer que je suis vraiment enthousiaste à l'idée de présenter cet épisode-là. C'est un thème qui m'intéresse beaucoup, puis c'est aussi le premier épisode d'une section du podcast qui est plus sur des thèmes précis. Lorsque j'ai conçu ce podcast, j'ai envisagé les 6 premiers épisodes comme une introduction à la parentalité LGBTQ+. Mon objectif, c'était que si un futur parent écoute les 6 premiers épisodes, il va se sentir plus prêt à fonder sa famille. Et comme j'ai dit, à partir de l'épisode 7, on commence à toucher des sujets un peu plus précis, qui vont se concentrer sur des réalités spécifiques ou des sujets plus pointus. Comme par exemple, aujourd'hui, le thème de l'épisode, c'est religion, culture et spiritualité, qui, on s'entend, peut vraiment être un sujet délicat pour plusieurs personnes LGBT. Depuis quelques années, je réfléchis beaucoup à ma version de qu'est-ce que c'est la spiritualité, en lien avec justement être une personne trans, queer, puis avoir été élevée catholique. Donc, j'étais vraiment content de rencontrer les 3 personnes que vous allez rencontrer aujourd'hui. Mona, toi, c'est quoi ta relation avec la spiritualité?
Mais comme lesbienne, juive et athée, je n'ai jamais été vraiment connectée à ma spiritualité, mais je suis par contre très connectée à mon identité et puis ma culture juive. Au Québec, les gens mélangent vraiment spiritualité, religion, culture, alors que ces 3 choses sont complètement différentes.
C'est vrai parce que quand on essayait de nommer l'épisode, on a eu de la difficulté un peu.
Oui. C'était au début, on l'appelait religion et spiritualité, mais là, c'est devenu religion, culture et spiritualité parce que pour beaucoup de personnes, cet aspect culturel est très important aussi.
Oui, exactement. Puis c'est pour ça qu'on a décidé d'appeler l'épisode religion, culture et spiritualité parce que nos 3 invités vont parler de ces 3 concepts-là sans nécessairement les différencier. Qui dit nouveau sujet, dit nouvelle capsule vocabulaire. Aujourd'hui, en parlant de spiritualité, religion et culture, on utilise des nouveaux mots. On en a seulement 2 à vous définir aujourd'hui parce que vous commencez à être pas mal bon après 6 épisodes, n'est-ce pas? Le premier, c'est biracial. Biracial, c'est un adjectif qui signifie provenant de 2 origines ethniques différentes. Par exemple, un couple qui serait formé d'une personne noire et d'une personne asiatique est un couple biracial. Le deuxième et dernier terme, c'est Two-Spirit. En des termes simples, le concept de Two-Spirit a été introduit dans les années 90 pour mettre de l'avant et célébrer les différences entre les identités LGBTQ+, des personnes autochtones et non autochtones. C'est important de dire que sur une approximation de 400 nations autochtones en Amérique du Nord, 155 ont des multiples traditions de genre documentées, mais qu'avec la colonisation européenne, ces traditions de genre-là ont été éradiquées. Donc, d'avoir le terme Two-Spirit, c'est de remettre de l'avant justement que les nations autochtones ont toujours eu une façon de parler des identités LGBTQ+. La première entrevue aujourd'hui, c'est celle de Joël, qui va être la seule entrevue en français de l'épisode. Joël, c'est la référente de l'église Unie Sainte-Geneviève à Delors-des-Ormeaux. Elle et sa conjointe ont 2 enfants en bas âge, qui participent activement aux activités de la congrégation. Dans cette entrevue, Joël partage son expérience sur comment elle a réussi à réconcilier son identité de femme bisexuelle avec sa foi religieuse. D'où est-ce que tu la connais, Mona?
Je pense que c'est parce qu'elle m'a invitée il y a longtemps à venir parler à un groupe de jeunes qu'elle dirigeait. Et plus tard, j'ai appris qu'elle est devenue pasteur parce que j'ai une amie qui était dans l'Église Unie aussi.
On est allé la visiter en novembre 2022, où est-ce qu'on s'est retrouvés à l'Église Sainte-Geneviève. Elle nous a fait un petit tour guidé de la place. Est-ce que tu t'en souviens?
Oui.
C'était mignon. Je sais pas si tu te souviens, mais il avait décidé de mettre la place pour les enfants à l'avant.
Oui, ce qui est vraiment nice.
Pour que les enfants participent, en fait, à la messe. Donc, on s'est retrouvés dans le bureau de Joël, qui était baigné de lumière, agrémenté de plantes. Et on a commencé à avoir une discussion mémorable que vous allez maintenant écouter. C'est avec plaisir aujourd'hui qu'on est à l'église Sainte-Geneviève.
Oui, l'église Unie Sainte-Geneviève, parce qu'il y a une église catholique Sainte-Geneviève pas loin d'ici, puis ils sont souvent confondus.
Donc, l'église Unie Sainte-Geneviève, et qu'on est avec Révérend le Duc.
Oui.
C'est ça? Est-ce qu'on peut-tu dire au féminin, Révérend?
On peut dire révérende, on va dire pasteur et mettre un E à la fin. Dans l'Église unie, ça se fait beaucoup féminiser les titres. Mm-hmm. Ça se fait moins dans d'autres églises, souvent parce que le sacerdoce n'est pas ouvert aux femmes dans certaines confessions. Mm-hmm.
Donc, on a l'idée que tu es pasteur, mais peux-tu me présenter un peu plus tes pronoms, ton prénom, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Oui, je m'appelle Joëlle Leduc, je suis pasteur dans l'Église unie du Canada. Mes pronoms sont féminins, je suis cisgenre femme et je suis en couple avec une autre femme, on est mariés, on a deux enfants. J'ai été élevée catholique, j'ai fait le changement vers l'Église protestante vers l'âge de 25 ans.
Est-ce que tu peux me parler un peu de qu'est-ce qui a mené, dans le fond, à ton changement?
Bien, c'est très lié à mon orientation sexuelle, en fait.
Mm-hmm.
Ma famille n'est pas très pratiquante.
Mm-hmm.
Et puis, dans la vingtaine, je cherchais une façon de vivre ma foi qui était moins en isolement, qui allait chercher peut-être un peu plus de communauté. Puis, mon premier réflexe, ça a été d'aller à l'église catholique proche de chez nous. J'étais trop gênée pour aller à un gros service du dimanche, là. Puis je suis allée à un service de semaine. Et puis, premièrement, il n'y a personne qui m'a parlé. Tout le monde me regardait de travers.
Mmh.
Et deuxièmement, quand je suis sortie de là, j'ai vu une partie des paroissiens aller vers une association communautaire dans le quartier que je savais avait distribué des tracts anti-mariage gay.
Mmh. Oh.
J'étais juste vraiment pas à l'aise de rester
ici à
là.
Montréal?
C'était dans le quartier antique.
OK.
Oui.
Oh, wow.
Mais c'était justement, c'était dans le début des années 2000, là, c'était quand il y avait un gros débat sur la légalisation ou non, l'union civile ou non. Et puis, ça, je me sentais pas à l'aise du tout. Puis, à cette époque-là, je fréquentais Jeunesse Lambda. Et il y avait une fille à Jeunesse Lambda qui parlait tout le temps de l'Église unie, puis de son pasteur qui est gay, puis de comment c'est ouvert l'Église unie. Fait que je suis allée avec elle.
Mm-hmm.
Puis j'ai trouvé que c'était plus accessible comme service. On expliquait comment trouver les cantiques dans le livre de cantiques, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on dit ça, pourquoi on fait ça. Puis le sermon était vraiment beaucoup plus accessible au sens où ça ramenait la Bible et la vie courante. Puis j'ai fait comme, oh, ça m'intéresse.
Mm. Avais-moi un rapport d'autorité.
Oui. Donc, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise à être dans l'Église unie. Puis même encore aujourd'hui, si je voyage avec ma famille puis qu'on décide d'aller à l'église le dimanche, je fais bien attention à quel genre d'église on va.
Mm-hmm.
Si on va aux États-Unis, on cherche United Church of Christ.
Mm-hmm.
Puis ceux qui sont particulièrement explicitement ouvertes aux familles LGBT, mais aux couples LGBT.
Mm-hmm.
Donc, on peut se sentir en sécurité.
Je me demandais, est-ce que tu as toujours voulu des enfants? Puis comment sa spiritualité a affecté comme ton orientation sexuelle puis ton désir de parentalité?
Ben oui, j'ai toujours voulu des enfants. Puis je te dirais, je suis restée en couple trop longtemps avec un gars qui me traitait pas comme il faut parce que j'avais pas l'impression que ça serait possible pour moi dans un couple de même sexe.
Ouais.
Et puis quand j'ai laissé aller l'idée que bon, faut être en couple hétérosexuel pour avoir des enfants, ben j'ai pu me donner la permission d'être plus heureuse, d'être dans un couple qui est plus sain. Puis le fait aussi d'être dans l'Église unie, ça fait que je peux élever ma famille dans la foi sans, en ayant les ressources d'une communauté, puis sans avoir peur que ma famille soit jugée ou exclue.
Quelle importance prend la religion, la spiritualité dans ta parentalité? J'imagine que c'est beaucoup. Comment ça se manifeste?
Ben ça se manifeste au sens où, avant le souper, on a ce que j'appelle un bénédicidé ou un grace cube que ma fille lance, puis on lit la petite prière. Puis ça se manifeste au sens où, quand il y a eu un décès d'un ami proche, ma fille est venue aux funérailles, puis on a expliqué c'est quoi la vie après la mort et tout ça, puis a répondu à ses questions. Ma fille est très, très spirituelle, ma plus vieille. Ma plus jeune est encore un peu jeune pour l'exprimer. Mais ma plus vieille, quand il y a quelqu'un qui va pas bien, tu sais, on va prier pour lui, puis je vais y faire une petite carte, puis un beau dessin.
Mm-hmm.
Il y a une page Facebook qui s'appelle « What they didn't teach us in seminary », ce qu'ils nous ont pas appris au séminaire.
Mm-hmm.
J'ai écrit là-dessus. Ce qu'ils m'ont pas appris au séminaire, c'est que mes enfants seraient en deuil quand mes paroissiens seraient malades ou décédés. Parce que Sainte-Geneviève nous a adoptés très rapidement. Caitlin est très proche des paroissiens. Notre organiste est à l'hôpital depuis le mois de mars dernier. Ma fille, ça l'a beaucoup affectée. Ben, son réflexe a été, je vais lui faire un dessin. Je dis, ben, je vais le donner à son mari, puis il va lui montrer, puis ça lui a vraiment fait plaisir. Puis autant la paroisse nous a adoptés, autant elle a adopté la paroisse. Elle a des amis adultes ici. une des choses qui est vraiment chouette de pouvoir élever sa famille dans une église, c'est que nos enfants gagnent une centaine de grands-parents de plus. Donc, pour moi, que mes enfants puissent avoir des modèles âgés, des grands-parents d'adoption comme ça, je trouve que c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup ailleurs dans la société, le mélange des générations. Puis même dans les vieux modèles de ministère, là, l'école du dimanche, il y a une ségrégation des générations. C'est bon, les enfants vont sortir de l'église, vont aller faire leur affaire, là, puis après ça, ils reviendront. Mais cette déconnexion-là est en partie responsable du déclin de l'église. Parce que ce qu'on avait comme richesse, c'était justement ce mélange-là des générations. Puis c'est pour ça que je vous ai montré tantôt le petit coin pour les enfants dans le sanctuaire pour qu'ils soient inclus dans tout le service. Je trouve ça important parce que autant les enfants vont apprendre des adultes, autant les adultes vont apprendre des enfants, particulièrement les questions qu'ils posent. Des fois, on fait « Hein? » Je n'avais pas vu ça de même. C'est intéressant comme question, puis ça va donner une autre perspective.
Comme tu as dit, tantôt, tu nous as montré que le coin des enfants est à l'avant dans votre sanctuaire. Donc, ça fait... Les enfants font qu'ils ont une relation plus directe.
Ils sont complètement intégrés au service. Puis souvent, les gens vont penser quand un enfant te regarde pas, qu'il t'entend pas ou qu'il t'écoute pas. C'est tellement pas vrai, là. Un enfant qui joue, là, toujours une oreille ouverte. Puis souvent, il y a des questions qui vont revenir après, des fois plusieurs semaines plus tard. Une curiosité qui est importante. Puis le fait aussi qu'il y ait un temps qui est particulier pour eux dans la célébration, ça leur permet de s'exprimer aussi, de participer. Pas seulement d'être vus, mais pas entendus, qui ont leur voix et ont leur place. Si on est élevé comme étant vu, mais pas entendu, puis sorti du sanctuaire pendant la célébration, on n'a pas l'impression qu'on a quelque chose à contribuer. Donc, on ne voit pas l'intérêt d'y retourner quand on n'est plus obligé. Ça, c'est une chose, mes enfants ne sont pas obligés d'aller à l'église. Si Caitlin, ça ne tente pas d'aller à l'église un dimanche matin, elle reste à la maison. Mais honnêtement, c'est rare que ça ne tente pas.
Dernière question pour toi, ça va être, est-ce que tu as des conseils pour les futures familles LGBTQ+, qui sont pratiquantes, donc qui veulent intégrer, qui veulent rallier justement leur identité LGBTQ+, puis leur foi?
Je dirais, informez-vous. Parce que justement, peu importe la confession, il va y avoir une grande variété d'une paroisse à une autre par rapport à l'inclusion. Qu'est-ce qui est important pour vous? C'est quoi vos valeurs? Comment vous voulez vivre votre foi? Puis après ça, vous pouvez aller trouver la communauté qui va vous accueillir là-dedans. Puis on n'est pas obligé d'être toutes pareilles non plus. Moi, j'ai vu beaucoup, surtout dans les paroisses francophones, c'est beaucoup du magasinage d'église. Quand il y a quelque chose qui n'est pas parfait, il claque la porte. Oh non! L'Église unie, finalement, c'est pas pour moi. Alors que dans toutes les communautés, il y a des imperfections. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je suis en sécurité ici? Est-ce que je peux être moi-même ici? Même si c'est pas tout le monde qui est comme moi. Même si le pasteur, il m'accueille, la plupart des gens qui m'accueillent, mais ce monsieur-là en particulier, ouh, il a l'air bête. Ben, ce monsieur-là, c'est pas la paroisse au complet. T'sais, c'est une personne. Informez-vous, puis trouvez l'endroit où vous pouvez être vous-même parce que ça existe. Puis quand on est soi-même au niveau de son orientation sexuelle, mais qu'on peut pas être soi-même au niveau de sa spiritualité, on peut pas être complètement soi-même non plus. Il manque un bout. Il manque un bout qui n'est pas nourri, qui n'est pas soigné. puis on arrive en fin de vie ou quand quelqu'un décède dans notre famille, puis on n'a pas les mots, puis ça, ça fait mal.
Mm-hmm.
On n'a pas le soutien d'une communauté, puis ça, ça fait mal. Des gens que je connais, là, des catholiques non pratiquants, québécois typiques, la plupart agnostiques, vont dire « je t'envie parce que tu as une communauté, parce que tu as des gens qui prennent soin de toi.
Mm-hmm. »
Ben, on peut faire partie d'une communauté de foi sans être certain de ce qu'on croit.
Ouais.
Le doute est le bienvenu. Il n'y a personne qui a la vérité absolue. On a tout un tout petit bout. Comme l'éléphant qu'on touche dans le noir, est-ce qu'on dit c'est un gros mur, une corde, un serpent, un éventail? On a tout un petit bout. Et si on garde juste notre petit bout puis qu'on ne le partage pas, il va manquer un morceau de l'image pour tout le monde. Tout le monde y perd.
Dans les dernières années, j'ai eu beaucoup de réflexions sur comment réconcilier mon éducation catholique puis mon identité queer. Puis vraiment écouter Joël, ça m'a vraiment aidé. Puis j'ai même envisagé que dans une autre vie, j'aurais pu être un révérend.
Mm-hmm.
J'admire tellement le travail important qu'ils font auprès de leur communauté.
Je peux te voir dans ça.
Oui, oui, merci, oui. Merci. T'as-tu des choses à rajouter sur l'entrevue?
Et de mon côté, j'ai tellement aimé l'idée qu'une pasteur bisexuelle, avec une conjointe, avec des enfants, qu'elle est tellement bien intégrée dans sa communauté religieuse de West Island. Il ne faut jamais présumer que religion égale personne fermée à la diversité.
La deuxième famille, c'est celle de Namta. Namta, c'est une femme sud-asiatique cisgenre et queer qui a eu ses enfants en faisant des inséminations maison avec son ex-conjointe dans une famille d'origine indienne et anglaise. Elles se sont séparées en 2020 et leurs trois enfants, ainsi que leur chien Nico, sont maintenant en garde partagée entre les maisons des deux mamans. Elle est très fière d'avoir élevé trois enfants brillants, matures et gentils qui seront d'excellents citoyens du monde. Je sais que toi et Namta, vous êtes des bons amis maintenant. Est-ce que tu te souviens où est-ce que tu l'as rencontrée?
Mais elle est une amie très proche et honnêtement, pendant l'entrevue, on a essayé de se rappeler d'où on se connaissait et on ne se souvient pas. Ça fait tellement longtemps. Je pense que probablement on avait des amis en commun ou quelque chose comme ça, mais on ne se souvient pas.
Qu'est-ce qui était certain, c'est que tu étais bien content de la voir chez
oui.
elle.
Oui.
Je me souviens, en septembre 2022, c'était une journée ensoleillée. On est allé dans West Island, un grand voyage. Donc, on s'est installé dans la cuisine pour enregistrer une interview avec Namta, qui a été extrêmement généreuse avec nous.
Mm-hmm.
Merci encore, Namta.
Oui.
Je vous invite maintenant à écouter cette merveilleuse entrevue qui va être en anglais. We're here in Pointe Claire. Yep. We travel all the way to Pointe Claire. And Namta welcomed us in her beautiful house.
Hi.
My first question for you is, like, can you present yourself, your pronouns,
sure. yeah.
your first name, and also any other things you want to, like, talk about?
Sure. So my name is Namta, she, her, and I live in Pointe Claire, which is a surprise to me as well. I'm a physician. I have three kids, and I'm of South Asian background. So I was born in Winnipeg, but my parents had immigrated about 2 years before I was born. So in Winnipeg, there's actually probably a bigger Indian community than there is here in Montreal, or at least it's more cohesive. So my father went through the phone book and found Guptas. My last name is Gupta, and basically called them. And together they started the Hindu Society of Manitoba. That was in 1968.
Wow.
And now I think it has hundreds of thousands of members.
Oh, but my God.
They were the founding members of the Hindu Society of Manitoba. And if you talk to anybody in Winnipeg, they know my parents. So it was, a, you know, like my friends always joke, anybody who I've taken back to Winnipeg,
thinks it's a city full of Indian people and lesbians, because that's all I introduce them to, which I guess is a really good segue into me and who I am.
Yeah. Do you want to talk to me a bit more about your LGBTQ identity?
Sure. Was always there looking back. I mean, I would say I was sleeping with women way before I called myself a lesbian.
Way before. What were you calling yourself?
Sexually active.
Love that.
Yeah. You know, and then there was maybe about a year or two where I would have considered myself bisexual. And I remember coming out as bisexual, and I had two friends, a couple who were gay, and they were very mad that I was bisexual. It was a very difficult conversation, because for them, people were fighting for their lives, and here I was sitting on the fence. It was the 80s or 90s, I can't remember, but you know, you kind of had to pick. I think that I organically went towards being gay, and then also politically, I chose to pick a side, because at that time, there wasn't, it felt very apolitical to be bisexual in a sense. It felt like I wasn't committing to something.
You have three kids, right?
I have three kids.
Yeah.
So Nalan is 19. He's in Cégep. And Kian is 16 in secondaire 5. So he's in his last year of high school. And Satya is 14, going on 29. And she's in grade 9.
A lot of our families, the kids are younger. I'm always really happy to have parents that have older kids, because
right?
It's
mm-hmm.
So different.
Yeah. It is so different for them, because, you know, they don't have, for one, we're in Pointe Claire. So, mm-hmm. you know, I always tell the story of how when we first started at the primary school, the teacher was like, oh my God, you're a two-parent family. They were talking about my oldest son. And they were like, we have another family in kindergarten. And I'm like, really? And he's like, yeah, his name is Key. And I'm like, no, that's our other son. So we were it.
Yeah.
You know,
the
they
only
were
ones.
It. And it was, we worried about it. To be honest, I don't know if you know this, Mona, but you actually gave an education session to my school.
Okay.
The summer before,
oh wow,
my kids went in, because they were
it's the Marguerite Bourgeois,
yeah, right,
yes.
By the water there,
yeah. I remember that,
yeah. So they were all excited to try their new, you know, language, their new skills. Yeah.
I have a question for you, which is: did you always wanted kids?
Yes.
Yeah.
Always.
As far as you can remember.
As far as I can remember.
Yeah.
In fact, I was looking through some of my diaries or journals from when I was 10 or 12. And I was like, I want to be a mother and a doctor. Like the doctor was secondary. I want to be a mother. So I always wanted to be a mother. And I would say, without doubt, the single most regret I have in my life will always be that I didn't bear children. I am definitely a mother. But there's that line of femininity and motherhood that is so powerful coming from the Indian subcontinent, that there was a lot of grief that I had to work through to be able to become the best mother to the children that I have, and to also honor the children that I didn't. And now, ironically, in separation, now that I'm separated, I feel like I've really been into stuff. I mean, you know, I'm the game. I love the fact that my house now is just incredibly colorful, noisy, you know, full catastrophic living. Mm-hmm. And to me, that's an Indian mom. Centered around food, always.
Of course.
But yeah, so I always wanted to be a mother, and I can really happily say that I've never felt more like a mother than I do these days.
How do you define your religion and or spirituality?
My parents, when I was young, maybe around 10, they became Sai Baba devotees. And I don't know if you know who
No.
that is or what that is. But he was basically a prophet or a disciple. He was born in India, and he basically predominantly taught non-denominational. So love for everybody. And mm-hmm. so in some ways, we stopped going to the temple then and had a lot more what I would call prayer service at home.
Okay.
And with communities in people's basements, that kind of thing.
When you say non-denominational, you mean like...
Non-denominational, as in he believed that all religions were equal.
So, I didn't know that about you.
Yeah.
So do you identify as being Hindu or not really?
Well, you're born into Hinduism. Okay. So yes, I would say yes, I identify as Hindu, and it very much plays a big role in my culture. But you're born a Hindu, you don't practice Hinduism in a sense, right? There's a lot of rituals and a lot of, for me, it's more a value system, I guess. And
How does your spirituality, your parenthood, your identity as a LGBT, as a lesbian, in fact, interact inside of you?
Yeah. I had the world's best mom.
That's key, isn't it?
I had the world's best mom, as most people think they did. But no, mine was really like the one.
No, many people don't.
So when I came out to my mom, it was this moment. I had moved to Montreal and I came back to Winnipeg and they had this, the dreaded Manila envelope for me. So they had put an ad out. They didn't know I was gay. They'd put an ad out in India abroad, you know, relaxed Agrawal girl seeking, you know, a man. And I was moving in with my girlfriend. So I knew that if they came to visit, it was going to be one of those situations, right? So I basically sat my mom down and I was like, I have something to tell you. And she was like, what is it? And then I started to cry. And I said, well, I'm dating a woman. And she just kind of looked at me and there was like silence. And I started to cry harder and she's like, well, why are you crying? And I was like, well, I feel really guilty. I feel like I've let you down. And she just looked at me with her best Oprah voice and she said, you should never feel guilty about your sexuality because that's your spirituality.
Mm.
Like chills, right?
Wow.
Yeah. She was my wedding planner and she was the best mom. And she was so pure that she really didn't even know homophobia. It didn't enter into her sphere. So when we talk about religion, for me, it's really about spirituality. And there are ancient practices. I know we talk about mindfulness today, and I know we talk about like compassion, but those are things that I knew from day one. Those are things that my mom emulated from day one. So the way that I do that with my children is very much the way that she did it with us. So we pause before we eat. We thank. We're gratitude. We have gratitude for everything that we have. We understand that we take care of our young and we take care of our old. Like, these are practices that involve something that's in me already that is related to the spiritual life of being Hindu, I think. So they have less to do with ritual and more to do with a way of being. And my kids, you know, my son is now starting to meditate, but they've always had meditation pillows in their rooms. They see me meditate. My mom meditated every day. She had a practice of yoga and meditation that was part of her life all the time. So all of these things they're not new to me. They're very, very, they're in me as a way of being. And I think that I model that for my kids all the time.
Do you have advice for, I'm going to be really specific, do you have advice for future lesbian, like South Asian, like families, people that are South Asian, that are LGBTQ+.
Give me a call.
Yes, straight
because
up.
There's so few of us. And I remember like we would even stay away from each other a little bit.
Really?
Right? Like just because it was, you know, you have your own internalized racism, your own internalized homophobia. You know, I'm lesbian. I'm not that kind of lesbian, blah, 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 whatever. I just think that we have to start getting together. We have to start accepting one another. We have to start meeting. And so I would say just, you know, stay true to who you are, but there's lots of us now. If you look, you just have to find, it's not late like it was. You know, I remember going to Toronto to Desh Pradesh in the 90s, which was basically, like, I thought I was the only Indian lesbian in Canada. Okay, let's just start with that. So I went to Desh Pradesh in Toronto. I walked in and there's like 500 South Asian queer people. I think I fainted. Like, I was sure. Just so crazy to actually know that that existed.
And why don't we have that here?
Yeah, and it was the 90s. It was specific to the 90s. Like, even Desh Pradesh, I fell apart. I don't know what happened to it. I hear of the people there here and there because I would go 2 or 3 years in a row. I think I went. It was a big conference, and it was really alive and really vital. And also in the 90s, there was Sati, which was the South Asian queer. So I was a part of that.
Okay.
What was it exactly?
It was Sati. Basically, it was the South Asian queer. I don't know. I don't remember what it stood for. But we would meet together in people's houses. There's maybe 10 of us.
In Montreal?
In Montreal.
I find it really interesting when I talk with, like, because when you come out, we always think we're the first one.
Always.
And and it's just so, like, I think there's something that's lacking in queer communities where we don't talk about what happened before.
The story.
Stories, yeah. And I find it so interesting to know that, like, in the 90s in Montreal, there was, like, a group of, like, South Asian queers, like, meeting each other.
It's meeting, like, each other and trying really hard to belong, really.
Mm-hmm. Create community.
Yeah.
Mm-hmm. And I guess that's your advice. Create community.
Create community, you know.
Create community and call NAMTA.
Call NAMTA. So for me, family is a place where there's trust, there's honesty, there's integrity, and there's love.
J'aime tellement ça écouter les entrevues qui parlent du Montréal queer des années 90 et 2000. C'est tellement une réalité qui est loin et proche de moi, ça m'interpelle toujours beaucoup.
Je pense que ce qui, pour moi, ce qui est resté, c'est le fait que la mère de NAMTA a fait tellement un lien entre la spiritualité et la sexualité. J'ai adoré que ces deux choses n'étaient pas en conflit, ils étaient comme synonymes ou au moins synergiques. Comme j'ai mentionné au début, je ne suis pas une personne spirituelle, pas du tout, mais quand je pense au moment de ma vie, quand je me sentais le plus proche à comprendre la spiritualité, c'était toujours lié à ma sexualité.
Donc, j'imagine que ça t'a fait du bien d'écouter cette entrevue-là.
Mais oui.
La troisième et dernière famille qu'on rencontre aujourd'hui, c'est la famille de Diane. Diane, c'est la directrice du Centre régional d'éducation des adultes des Premières Nations. C'est une personne Mohawk et Two-Spirit qui milite pour les droits des personnes LGBTQ+ et Two-Spirit depuis plus de 40 ans. Elle offre des formations et plaidoyers sur des sujets tels que la bispiritualité, le genre, la décolonisation et la pédagogie autochtone. Toi et Diane, vous êtes amies?
Oui, je connais Diane depuis tellement longtemps. Je pense qu'elle est probablement l'une de mes plus anciennes amies.
Et comment vous êtes rencontrés?
Nous sommes rencontrés au début de la coalition. Et puis, nos familles ont voyagé ensemble, nos enfants ont grandi ensemble. Mm-hmm. Je suis rapidement devenue très proche avec Diane, car non seulement on rit beaucoup ensemble, mais aussi parce qu'on est tous les deux, on a une bonne fibre politique. Je me souviens la première fois que j'ai vu Diane faisant une présentation sur l'homosexualité à la commission scolaire où elle travaillait dans le temps. J'étais comme au fond de la salle, dans l'audience, puis elle était énormément opposée. Elle était vraiment quasiment attaquée par l'audience et dénigrée aussi. Puis elle avait juste des réponses claires et pédagogiques. Elle n'est pas devenue fâchée, elle était juste forte et directe. Moi, j'étais tellement impressionnée. Diane était toujours incroyable, même il y a 25 ans.
Ça se voit dans l'entrevue, vous connaissez depuis longtemps. C'était vraiment le fun pour moi de vous écouter, parce qu'on s'entend dans cet épisode-là, j'ai surtout écouté. C'est entre autres pour ça qu'on a décidé de faire l'entrevue en anglais, parce que vous connaissez depuis longtemps, puis vous parlez en anglais ensemble. Fait qu'on voulait juste que ça soit un peu plus authentique. Mm-hmm. Diane est venue au bureau de la coalition en juillet 2022. Puis avant de commencer l'entrevue, on a parlé un peu de ses chiens. C'était bien cute. Puis Mona et Diane se sont aussi remémorés des souvenirs en voyant une photo de ses deux enfants, Jamie et Sage, qui sont sur le mur du bureau.
Oui.
C'était très mignon.
Oui, on était au Vermont, on faisait une randonnée sur le Long Trail.
Oh, et ça, là, ça fait des années.
Oui.
C'est toujours le fun d'écouter des gens se remémorer des histoires, c'est un peu comme si on était là. Sans plus attendre, je vous invite maintenant à écouter l'entrevue avec Diane.
Hello.
Nice to see you today.
My question.
So I'm going to start with the first question, which is, can you introduce your family, including your first names, pronouns, and any other information you find relevant?
So Diane LaBelle, and my partner's name is Susie Goodleaf. Been together for 33 years. Susie uses the pronoun she, identifies as lesbian. I do not use pronouns because I am non-binary. And we have two children that were born to us, whose spirits came to us. Jamie was born in 96 and Sage 2 years later. They grew up in Ganawage with both moms, went to school in Ganawage, but also one of the cultural things that we have is that our homes or our families are not defined by biological relationship. So early on in their childhood, a friend of ours, Brenda, came to live with us with her two sons, Isaac and Ben. And when Brenda died of leukemia, the two boys stayed with us. And so we were always aunties. And the kids have always called themselves brother. So it was just a natural transition from auntie to moms. We have five grandkids at this point. So Jamie, the 26-year-old, has a daughter who's seven. Ben has three. And then Isaac also has a little boy who's two. Isaac's boy lives with us most of the time. So we have the kids around. Jamie, Sage, and Isaac live in our home. So we have a full house all the time.
Have you always wanted children?
Yeah, pretty much. It was an interesting thing for me growing up. Discovering my different orientation or gender never meant for me that I was giving up the idea of having children. And then when I met Susie, for the first couple of years, it was simply just having the relationship and dealing with the relationship. And then I said, you know, like I mentioned at the beginning, I want to have children. And time is going on and I would like to get going with the family plan. And she was like, let's get a dog. And that's what we did. We got a dog. For her, the situation was very different because as she grew up and knew that she was a lesbian, she thought that that whole aspect of parenting was off the table. Mm-hmm. Right. So, and ironically, I tried to get pregnant and after three miscarriages, Sue was frustrated and said that she was ready to carry, which shocked me, totally, and really had a really profound effect on her.
How do you define your religion and or spirituality?
It's funny. Sue and I were both, baptized Catholic. However, from the onset, we hold to an indigenous view of the world, and that has been the predominant form of spirituality in and around us. It isn't a religion per se, but just a way of being. In that are some very key values, you know, like relationships between us and everything around us, the recognition of spirit everywhere, going back to the original instructions and what we need to do as human beings, which is very simple. Not a big, long list of things. However, we know how badly people have steered away from that. So the idea is that we've worked very hard to have that kind of spirituality around our children. Sage is very involved with the community and spirituality. We have an adopted grandmother as well. She's Anishinaabe. And she has done a lot of work bringing in teachings and ceremony and working with the kids. Sage, like I said, has taken to it. She's recently also taken to spending a lot more time with elders in the community and learning a lot more She's done this on her own, probably more than what Sue and I do. Jamie at the other, you know, on the other side just kind of pushes everything away. You know, he doesn't want to think about any of that. Ben and Isaac are much more involved with spirituality, and will follow some of the traditions, not all of them. They're surrounded by aunties and uncles that have various forms and of knowledge that they share with them, and we pretty much try and keep it alive.
I'm wondering about your choice of sperm donors. Oh. I remember that was a very important issue for you guys. So if you could just talk to that a bit.
Well, it was very important because we knew they were going to stand out, and we knew that there was going to be some friction and tension there coming from a lesbian or same-sex parent family. But for us, the issue of identity and Indigenous identity was more important than that. And so we had to search the banks looking for an Indigenous donor. And we did. We found one in Berkeley, California, and the donor was Pueblo. And so it was very important that that sperm is what we were going to use. And in addition to that, we wanted it for both children. But the donor wanted to remain anonymous. The issue had a lot to do with, okay, well, how do we prove the indigeneity of this person? And so without having to identify himself, we paid for him, or the legal fees, for him to sign an affidavit. So the research was done by the lawyer to verify this person's identity and then have it stated clearly in a legal document so that when our children would be applying for status within their own community, it could be used. Not so easy, because you see, this is the first time.
Right.
Right. And so Sage is in that process. And so it has a lot to do with, again, you know, how do you do this, and how do you look at this legal document? Does it hold? Does it, you know, I mean, but look at the kids. I mean, it's clear, you know. Because they did take a lot of Pueblo characteristics as well. Sages have been very good at locating exactly where the donor would have come from, as well as learning as much as she can about the donor. She contacted the donor through the sperm bank, explaining the process she was going through, and wondered if he would consider identifying himself to make it easier. And there was no response from that. She did find out that there are four of them from this donor, that she is the youngest and Jamie's the oldest. So there's two in between.
Mm-hmm.
So I don't know if she's going to pursue that. Knowing Sage, she probably will. And just to find out, you know, just out of curiosity. The two kids have been great in terms of their father. I mean, I don't know if you see their posts on Father's Day or my God, they're funny. I think this year is like the two of them are kind of holding their hands around a shadow. And it's like, happy Father's Day, Dad.
So, Diane, do you have any advice for future LGBTQ plus Indigenous families?
For them would be take your place. If you're interested in having a family, push the services in the community to help you with the process and to learn more about the process. There's very little information in the communities about this. And it's important that that push be there simply by asking, because there's a lot of people who are in those services who have just never had the opportunity to really investigate and to look for things. And then all of a sudden the question is asked and it's like, hey, this is a service we've been missing. we need to be able to think about this because it's a reality. And I think as we heal more too, we will see this traditional role of the two-spirit come back more and more and begin to document actually the fact that it's been there the whole time. You know, the more I travel in the communities, the more I'm hearing stories of, oh yeah, remember this couple of guys? Yeah. They used to take in the kids because the parents had died. You know, and it's like, yeah, there you go. Got it. You know, or so the conversation is had and we begin to connect it with things from the past. Clearly, one of the things I want to see before I pass on or pass the baton on to whoever's going to take it is to make sure that there's more information and that there's a group that could actually take all of this wonderful information that's been gathered and to share it on that level as well. So parents or young people who are out there, you don't give up your dream of having a family. And one way or another, there are ways of having the family you want. And you're contributing to the seven generations. For me, family is connection, but more rootedness.
C'est tellement agréable de vous écouter Mona et Diane parler. Pour vrai, je pourrais vous écouter pendant des heures et des heures. On pourrait même faire un podcast entier où est-ce que vous partagez des anecdotes puis des souvenirs de votre amitié. Je serais le premier à l'écouter. Un des trucs que j'ai appris dans l'entrevue, c'est comment la loi sur les Indiens est vraiment venue solidifier, dans le fond, cette binarité de genre-là qui était apportée pendant la colonisation par les Européens, puis comment, en fait, toutes les nations autochtones avaient une vision différente des genres. Toi, Manon, y a-tu quelque chose que tu as appris dans l'entrevue?
Moi, j'ai tellement adoré le fait que Diane et Suzy mettent beaucoup, beaucoup d'importance dans le transfert de leur culture à leurs enfants. Jamie et Sage sont même allés à l'école Mohawk de Ganawagé quand ils étaient petits. Puis Sage, en particulier, elle sait comment parler le Ganangiagé. Je vois ça comme une lutte active de restaurer quelque chose qui leur a été historiquement volé. Quelle fierté!
Pour conclure, un énorme merci aux trois familles qui sont venues parler avec nous de religion, culture et spiritualité, de comment ça impacte leur famille sur une base quotidienne. Donc, je vais prendre un petit moment pour remercier Joël, Namta et Diane d'être venus parler avec nous. Mona, comment tu prévois l'évolution de la relation entre les familles LGBTQ+, et leur rapport à leur religion, culture et spiritualité dans les 25 prochaines années?
Il vient de voir comment le coming out est de moins en moins un élément de rupture avec nos affiliations religieuses, culturelles, spirituelles. On sera de moins en moins dans une époque où on doit choisir entre les différentes facettes de qui nous sommes. Cette diversité est tellement belle et inspirante.
Alors, on se retrouve au prochain épisode, Mona?
En fait, non. C'est le tour de l'année.
C'est vrai, c'est le tour de l'année. Donc, on va avoir le plaisir, dès le prochain épisode, d'accueillir l'année avec nous, qui a fait les interviews pour les trois prochains épisodes, qui sont sur les réalités des familles Cutie BIPOC. Je vais toujours être là, mais comme co-animateur cette fois. Fait que, à bientôt! Dans le prochain épisode, on rencontre deux familles qui vont nous parler de leur réalité en tant que famille Cutie BIPOC. Cutie BIPOC, c'est Queer, Trans, Black, Indigenous, and People of Color. C'est un rendez-vous dans deux semaines, même jour, même heure. Ce balado est une production de la Coalition des familles LGBT+. Animation, réalisation et montage par Henri June Pilote. Co-animation par Lani Trilène et Mona Greenbaum. Musique par Nkoussi. Ce balado doit avant tout sa magie et son authenticité à l'accueil chaleureux et sincère des 34 familles et futures familles que nous avons rencontrées. Merci énormément.